Vous écoutez France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une émission préparée par Fanny Richer, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Mina Fézy, réalisée par Jean-Christophe Francis. À la prise de son ce soir, Dali Yaya. Ils avaient déjà montré de gros signes de faiblesse l'été dernier. Cette fois, on dirait bien que la fête est finie pour les pays émergents. Leur taux de croissance, qu'on disait insolent, comme pour souligner qu'ils n'étaient peut-être pas à leur place, peine désormais à dépasser les 5%. Et voici que plusieurs d'entre eux, Brésil, Turquie, Inde, Russie, se retrouvent plongés depuis quelques jours dans une crise monétaire et boursière. Alors la faute à qui ? La faute notamment à la Banque Centrale Américaine, la Fed. Jusqu'à ces dernières semaines, celle-ci inondait les marchés de liquidités que les investisseurs allaient miser sur les places financières les plus rémunératrices, celle des pays émergents. Or, la Fed vient de changer de politique en injectant moins d'argent. Pour ces mêmes investisseurs, les perspectives de rendement diminuent alors que le risque de perte augmente. Ils décident donc de rapatrier leurs placements dans des économies plus sûres car plus solides, celles des pays développés, CQFD. Mais la nouvelle approche de la Banque centrale américaine ne saurait expliquer à elle seule ce que certains appellent la fin du miracle économique. Au mieux, on peut y voir l'effet d'une normalisation, en particulier pour les fameux BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Après avoir beaucoup gonflé, les économies émergentes passeraient désormais par une phase d'ajustement, une nouvelle étape vers la maturité. Au pire, ce fort ralentissement serait le signe d'un décalage de plus en plus important entre la puissance économique de ces pays et la faiblesse des réformes structurelles qui y sont menées, notamment sur le plan politique. Alors, pays émergents, les avons-nous vus trop beaux, trop vite ? C'est notre sujet du jour. Et trois invités pour en discuter. Françoise Lemoine, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseillère au CEPI, le Centre d'études prospectives et d'informations internationales, chercheuse associée au Centre d'études sur la Chine contemporaine. Et vous avez publié au mois d'août dernier « L'économie des briques ». Brésil, Russie, Inde, Chine. Il n'y a pas le S pour l'Afrique du Sud. Vous l'avez publié avec Andrea Goldstein aux éditions La Découverte dans la collection Repères. Pour discuter avec vous ce soir, Laurence Daziano, bonsoir.
Bonsoir.
Maître de conférence en économie à Sciences Po Paris. Vous êtes membre du conseil scientifique de la Fondapol et c'est pour la Fondapol que vous avez publié une note en juillet dernier, la nouvelle vague des émergents, Bangladesh, Éthiopie, Nigeria, Indonésie, Vietnam, Mexique, c'est qui nous permet de voir apparaître un nouvel acronyme, BENIVM, qui
sera BENIVM.
BENIVM, voilà, bon, ce sera peut-être un peu plus compliqué à populariser que les BRICS. On verra d'ici peut-être quelques années. On aura évidemment l'occasion dans le courant de cette émission, de parler de ces nouveaux pays émergents. Notre troisième invité, c'est Christophe Jaffrelot. Bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de recherche au CNRS, consultant permanent au Centre d'analyse de prospective et de stratégie du Quai d'Orsay. Vous avez dirigé un ouvrage collectif, c'était en 2008, aux presses de Sciences Po, L'enjeu mondial, les pays émergents, dans lequel d'ailleurs vous disiez que ces émergents étaient sur une trajectoire qui était peut-être plus précaire qu'il n'y paraît. Peut-être que l'actualité est en train de vous donner raison 6 ans plus tard. Je précise par ailleurs que vous venez de publier au PUF et à la vie des idées avec Jules Naudet, Justifier l'ordre social. Alors j'avais prévu de commencer avec vous trois par une définition de ce qu'est un pays émergent. Je vous en ai parlé un petit peu avant l'émission, mais on m'a dit, oula, si on part dans les définitions, ça risque d'être un petit peu compliqué. On va quand même tenter le coup, même s'il ne faut pas qu'on passe l'émission là-dessus. Laurence Daziano, justement, dans votre note, vous reprenez 5 critères qui permettent de dire qu'un pays est émergent ou pas. Alors peut-être déjà, vous pouvez nous donner ces 5 critères.
Tout à fait. Donc, les 5 critères que l'on peut reprendre pour définir un pays émergent, d'abord, c'est sa croissance économique qui va mesurer sa richesse et l'accroissement de cette richesse. Il y a également la population, puisqu'on voit des phénomènes de population très, très importants, notamment en Asie et en Afrique. En Afrique, aujourd'hui, c'est 850 millions d'habitants. 2050, c'est 2 milliards d'habitants.
Donc richesse, population.
Le taux d'urbanisation, puisque le développement d'un pays se fait aussi et grâce à la ville, les besoins d'infrastructures pour voyager dans le cadre du pays et la stabilité politique pour pouvoir se développer.
Est-ce que ces cinq critères-là vous conviennent, Françoise Lemoine et Christophe Jaffrelot ?
Il me semble qu'il y en a un qui pourrait être ajouté, mais je ne sais pas comment il coïncidera avec votre définition, c'est celui du revenu par habitant. Parce qu'il faut quand même distinguer les pays émergents des pays développés. Et donc mettre une espèce d'échelle pour mesurer leur distance à l'égard des pays avancés.
Ce qui veut dire qu'un pays, par exemple, comme la Chine, qui est un pays riche, puisque c'est la deuxième économie mondiale...
Il n'est pas riche. Enfin,
en tout cas, c'est un pays puissant économiquement. C'est la deuxième économie mondiale, ne ferait pas forcément partie des pays émergents ?
Dans ma conception, qui est assez... qui ne vise pas à avoir une définition complète, mais un pays comme la Chine, qui est peut-être la deuxième, enfin qui est la deuxième économie du monde, mais où le revenu par habitant, parce que si vous divisez la production chinoise par le nombre d'habitants, vous avez un revenu par tête qui est à peu près un cinquième de celui du revenu par tête aux États-Unis. Donc c'est un pays qui est émergent, sans ce qu'il est en train d'émerger, mais il est encore loin de pays avancés.
Christophe Jaffrelot.
Pour le politologue, il y a un critère qui s'ajoute à tout cela et qui sont parfaitement valables. C'est la façon dont ces pays ont fini par contrarier l'Occident, puisqu'en fait, ils ont émergé largement contre l'Occident. Et c'est pourquoi la Russie peut en être, alors qu'on pourrait l'appeler réémergente, la Russie. Elle a été quand même dans un duopole avec les États-Unis pendant des décennies. Néanmoins, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur la scène internationale, il se serre suffisamment les coudes pour contrarier ce qui a longtemps été l'axe atlantique, européano-américain, et que là, on a un phénomène d'émergence et qu'ils sont toujours très beaux.
Alors, si on regarde l'actualité récente, et c'est ce qui a provoqué l'envie de faire cette émission, c'est cette crise monétaire et boursière dans certains pays que l'on qualifie d'émergents, Brésil, Turquie, Inde, Russie notamment. Est-ce qu'au moins pour ces quatre-là, on peut dire oui, ce sont bien des pays émergents ?
Oui, alors avec en plus un fait de masse quand même, hein. Ce ne sont pas des petits pays, ce sont des pays qui pèsent, alors démographiquement et puis en termes aussi de territoire tout simplement, ils sont massifs et souvent à la charnière de deux mondes qui sont quasiment intercontinentaux.
Alors j'ai essayé d'expliquer en début d'émission pourquoi le changement de politique de la Banque fédérale américaine avait contribué à ce que les investisseurs qui s'étaient précipités sur ces nouveaux marchés financiers rapatrient leurs placements vers des économies plus sûres. Est-ce que le premier renseignement de cette crise, Françoise Lemoine, ça n'est pas de constater que finalement, au moins pour les investisseurs, ces pays émergents étaient encore considérés comme des pays à risque.
Dans la décennie des années 2000 et avant la crise, justement, ce qui s'était passé, c'était qu'on avait considéré que ça n'était plus des pays à risque, mais c'était au contraire des pays à forte opportunité, ce qui avait entraîné un déplacement des capitaux vers ces pays. Et avec la modification de la politique monétaire américaine, et puis aussi, sans doute, parce que ça n'est pas le seul élément, avec aussi le ralentissement de la croissance dans ces pays qui date de 2012-2013, et avec les perspectives de ralentissement de la croissance chinoise, qui est un gros morceau des émergents, on a un retour effectivement à une prise de conscience que ces pays représentent peut-être des risques. Alors que jusqu'à présent, on avait considéré qu'ils avaient une croissance potentielle telle qu'il était beaucoup moins risqué finalement et beaucoup plus profitable d'investir dans ces pays plutôt que dans les économies développées.
Laurence Daziano.
Oui, le resserrement monétaire de la Fed, est-ce que c'est vraiment une cause des difficultés des pays émergents, ce retrait de liquidité, ou est-ce qu'au contraire, c'est le révélateur de faiblesses structurelles qu'ont ces pays, parce que il faut non plus pas être trop impatient, ils sont aussi en train de se construire. Et que quand on regarde, certes, il y a une baisse de la production industrielle, mais il y a aussi encore des insuffisances de transport dans ces pays. Vous avez encore des problèmes de recrutement de main-d'œuvre qualifiée. Donc ce sont des pays qui sont aussi en train de se construire. Et donc, le fait que la Fed injecte un petit peu moins de liquidités, est-ce que ça ne vient pas plutôt révéler ses faiblesses plutôt qu'être la cause de ses faiblesses?
Mais est-ce que vous diriez qu'on les a surestimés, justement, ces pays, ou bien au contraire qu'ils sont victimes de cette forme d'impatience aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on surestime peut-être la crise qui touche ces pays?
Est-ce que ce n'est pas aussi le fait... qu'on surestime aussi le fait que les BRICS, le concept est apparu en 2001, on est aujourd'hui en 2014, donc on voit que ces pays ont déjà derrière eux 14 ans de croissance, qu'ils ont encore des fondamentaux et un potentiel pour continuer leur croissance. Alors aujourd'hui, la Fed commence à retirer ses liquidités. Ils l'ont annoncé déjà au printemps 2013. Ils le font début 2014.
On ne peut pas dire que ce soit une grosse surprise.
Voilà. Est-ce que ce n'est pas un micro-événement, quelque chose de très conjoncturel, alors que structurellement, les fondamentaux sont là, ils sont bons. Ils ont encore besoin de se solidifier parce que ce sont de jeunes pays, enfin dans le domaine économique, mais que donc sur la tendance, ils vont poursuivre sur une tendance qui est quand même solide.
Christophe Geoffrelot.
Oui, avec cette variable sociale et politique qui mérite tout de même qu'on s'y attarde. Parce que les pays que vous avez cités à l'instant, Brésil, Turquie, Inde, Russie, voilà des pays qui sont plutôt en phase de mobilisation sociale, de protestation sociale, et pour des raisons qui sont souvent similaires d'ailleurs. Il y a eu une faillite des élites. Ces élites qui se sont beaucoup enrichies à la faveur d'une croissance à quasi deux chiffres se sont révélées très corrompues. Et on a vu, alors à l'occasion de la construction des stades au Brésil, des Jeux du Commonwealth en Inde, des sports d'hiver, enfin des Jeux Olympiques d'hiver de Russie, que l'argent avait été utilisé de manière tout à fait particulière. Donc on a une forme de faillite des élites qui suscite des mobilisations sociales, une classe moyenne qui a été générée par la croissance, qui maintenant est politisée et qui ne veut plus de ces dirigeants-là. Je n'ai pas cité Erdogan, mais on a tous en tête l'occupation par ces mêmes classes moyennes. Donc le risque, il est peut-être aussi politique, il est peut-être aussi celui d'une instabilité qui est liée à une incapacité de ces élites à stabiliser leur régime.
Le risque et les causes, ça veut dire que, d'après vous, au-delà des causes macroéconomiques, alors on parle de la Fed, on va aller sur la question aussi peut-être du ralentissement qui est peut-être normal pour des économies qui ont beaucoup progressé. Est-ce qu'il y a aussi des causes politiques, c'est-à-dire peut-être une inadaptation entre un mouvement d'expansion économique qui ne suit pas sur le plan politique?
Oui, je crois qu'il y a eu effectivement une incapacité de ces élites politiques qui n'étaient pas toujours dans des régimes démocratiques, ou quand elles l'étaient, qui étaient des régimes d'une démocratie encore balbutiante, l'Inde y compris, qui se trouvent sans contre-pouvoir, sans véritablement garde-fou. Et du coup, il y a eu des dérives et des scandales d'un montant considérable, sans précédent. Et partout, y compris en Chine d'ailleurs. Donc là la croissance... Pourquoi est-ce qu'ensuite, on va voir les chefs d'entreprise, non seulement étrangers, mais de ces pays, mettre leur argent à l'extérieur? Parce qu'ils n'ont plus confiance dans les élites politiques de leur pays.
Oui, je crois qu'on peut être d'accord sur le fait que les années 2000, en tout cas jusqu'à la crise de 2008, ont été une décennie exceptionnelle, en ce sens qu'il y a eu une forte injection de liquidités par les autorités monétaires américaines, une expansion des marchés et des biens de consommation aux États-Unis, en Europe, une libéralisation des mouvements de capitaux, et que donc les pays émergents, et notamment les BRICS, ont eu une croissance exceptionnellement forte pendant toute cette période. Et on voit bien que cette période tire un peu à sa fin avec la crise, et que donc ces pays sont maintenant un peu plus réduits à leur propre force. Ils ne peuvent plus compter sur des afflux de liquidités, ils ne peuvent plus compter en tout cas sur l'expansion des marchés extérieurs et de leurs exportations vers ces marchés pour tirer leur croissance. Ils sont un peu réduits à leur propre force, mais ce sont des forces qui sont importantes. Comme M. Christophe Geoffrelot le soulignait, il y a maintenant une classe moyenne dans beaucoup de ces pays. Ils ont quand même une croissance qui est nettement supérieure à celle des économies développées. Et donc, on peut s'attendre à ce que la croissance des émergents, en tout cas des plus gros, devienne maintenant sans doute un peu plus modérée, mais tirée par la demande intérieure, qui est une demande qui est forte. Et donc, je crois que sur le long terme, effectivement, ce ralentissement se fait par rapport à une croissance qui était exceptionnellement élevée dans le passé, mais que cette croissance va continuer à être relativement forte et que donc le phénomène de l'émergence est une tendance lourde dans l'économie mondiale.
Est-ce que ça veut dire également que cette très forte croissance, Françoise Lemoine, reposait en partie, non pas sur du virtuel, mais sur quelque chose qui n'était pas du solide, c'est-à-dire l'économie réelle, comme on dit en...
Non, je ne crois pas forcément, parce que des économies, par exemple comme la Chine, dont la croissance a été portée au-delà de 10%, en grande partie par le boom des exportations vers les États-Unis. Bon, ce boom des exportations est terminé, les exportations sont beaucoup plus faibles maintenant, et le vrai moteur de la croissance chinoise va être la demande intérieure. Et cette demande intérieure, elle correspond à une augmentation des salaires, puisque c'est ce qui se passe en Chine. Je pense que ça se produit aussi au Brésil. Il y a eu une relance de la consommation dans des pays comme l'Inde, comme le Brésil, pour atténuer les effets, les répercussions de la crise internationale. Une relance de l'investissement en Chine. Enfin, je veux dire, ces pays vont être davantage amenés à prendre des mesures de politique intérieure, de réformes structurelles, pour que leur croissance se poursuive, et essentiellement sur des moteurs internes et non plus sur une demande extérieure qui, on le voit bien, n'est plus ce qu'elle était dans les années 2000.
Donc, phénomène de rééquilibrage entre la sphère économique et la sphère politique, Laurence Daziano, c'est comme ça qu'il faut comprendre ce ralentissement des pays émergents.
Alors, je partage tout à fait ce que vient de dire Christophe Jaffrelot sur la classe moyenne. C'est vrai que cette croissance a fait apparaître cette classe moyenne qui aujourd'hui, on l'a vu en Turquie, on l'a vu au Brésil au printemps aussi quand il y a eu les manifestations, ne supporte plus les inégalités qui existent, demande maintenant à avoir ce que les classes moyennes réclament, c'est-à-dire un minimum d'assurance sociale, d'assurance chômage, vieillesse, et qui aujourd'hui veulent cette transition qu'il va falloir commencer à faire, que la Chine a commencé à faire avec le nouveau régime, et puis cette ouverture un peu plus sur l'économie de marché, mais cette transition qui est à faire à un moment en 2014 qui est charnière entre le politique et l'économique, puisque dans 5 pays il va y avoir des élections, notamment au Brésil, notamment en Inde, et que ça va aussi participer à stabiliser ou non le régime politique.
Oui, parce que là, j'allais y venir, justement, parmi les 5 critères que vous définissiez, il y a la stabilité politique. Or, on est peut-être aussi dans des pays qui sont promis un avenir beaucoup moins stable qu'on ne pourrait l'espérer. Donc ça, c'est un motif de remise en cause de la place des pays émergents.
Oui, de mon point de vue, parce qu'un pays qui est stable politiquement, quelle que soit la nature de son régime, un pays qui est stable attire les investissements étrangers. Pourquoi ? Parce qu'un investisseur ne veut pas de risque. Donc ce fait qu'il y ait moins de risques, et d'où tout ce que disait Christophe Jaffrelot sur la perte de confiance des élites, des entrepreneurs dans les élites politiques. C'est-à-dire qu'on investit dans un pays quand on est sûr que l'argent qu'on y investit est en sûreté. C'est-à-dire que c'est des pays qui n'ont pas de risques. Et le fait que dans certains pays... il y a des élections, donc un changement possible de régime. C'est une période d'instabilité qui est aussi une des raisons pour lesquelles il peut y avoir un retrait de capitaux.
À la question qu'on pose ce soir à propos des pays émergents, les avons-nous vus trop beaux, trop vite, Christophe Jaffrelot ? Est-ce qu'on n'a pas un peu sous-estimé, alors là on est dans la sous-estimation, la dimension politique justement des pays émergents.
Si, et l'idée de BRIC, l'idée d'une croissance qui allait conduire ces pays à dépasser les pays occidentaux avant le milieu du XXIe siècle, c'est une idée de Goldman Sachs, c'est une idée d'économistes pour lesquels les courbes ne s'arrêtent jamais. Les politistes, eux, cherchent les facteurs qui vont faire dérailler le train. Et là, il y en a beaucoup. Ces inégalités, effectivement, elles sont très importantes. Cette croissance, encore une fois, à quasi 2 chiffres, elle n'a pas été égalitaire. Elle a creusé les inégalités. Et c'est normal. C'est normal, puisqu'en fait, on est à chaque fois dans des logiques assez libérales où ceux qui ont déjà un capital intellectuel, financier, foncier, vont pouvoir investir pour faire toujours plus. Et ceux qui n'ont pas ce capital, ils en ont un peu, mais ils en ont beaucoup moins que les autres. Donc on a vu se détendre, cette polarisation au plan social, avec quand même des masses de pauvres qui ne sont pas sortis de l'ornière, et au plan géographique, avec à chaque fois des territoires qui ont pu être les moteurs de la croissance et d'autres qui sont restés très longtemps et très loin derrière, au point que dans un pays comme l'Inde, ça a donné du carburant, disons, à des groupes révolutionnaires maoïstes qu'on ne pensait pas revoir un jour en Asie. Et il y a une guérilla maoïste aujourd'hui qui est précisément dans la zone la plus pauvre, la plus délaissée. Donc cette instabilité politique, elle a des ressorts sociaux qui renvoient à de l'économique qui n'a pas été gérée, encore une fois, d'en haut comme il aurait dû.
Françoise Lemoine, dans votre livre, vous écrivez, alors dans l'introduction, les BRIC sont devenus de grandes puissances économiques avant d'être riches. Est-ce que justement ces pays ne sont pas en train de payer ce phénomène-là, c'est-à-dire d'avoir été puissants économiquement, mais sans que justement les populations profitent pleinement de cette richesse. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire en tout
cas ?
Non,
ce que je veux dire, c'est que du fait de leur taille, de la taille de leur population, 1,3 milliard dans le cas de la Chine, plus d'un milliard dans le cas de l'Inde, ces pays sont devenus des grandes puissances en masse, du fait de la masse de la production, mais que si vous divisez l'ensemble du revenu par le nombre d'habitants, ce sont encore des pays pauvres. Enfin, ou en tout cas des pays à revenus intermédiaires, en tout cas qui ne sont pas dans le club des pays les plus riches, des pays riches.
Ce sont des pays fragiles d'ailleurs. C'est comme ça qu'il faudrait les définir aujourd'hui. Suffisamment fragiles, par exemple, pour imaginer qu'on puisse voir une reproduction de ce qu'a été la crise dans les pays d'Asie du Sud-Est à la fin des années 90.
Non, je ne pense pas. En tout cas, les pays d'Asie, les pays émergents d'Asie, me semblent être parmi les pays émergents les moins fragiles. Ce sont des pays qui, dans l'ensemble, ont quand même accumulé des réserves de change considérables, ce qui les met à l'abri d'une crise analogue à celle qui leur est arrivée à la fin des années 90. Et ce sont des pays dont les trajectoires de croissance sont plus ou moins rapides, mais relativement stables depuis la fin des années 90. Et je pense que c'est assez différent de pays comme le Brésil, par exemple, qui a eu une évolution sur ces 20-30 dernières années, beaucoup plus heurtée, et qui était resté un pays très dépendant des exportations de matières premières et donc des fluctuations des cours des matières premières. Je pense que en Asie, et du fait de la dynamique asiatique et de l'intégration régionale asiatique, l'émergence des différents pays, que ce soit des gros pays comme la Chine ou comme l'Inde, mais aussi les autres, sont pris dans une dynamique régionale qui fait qu'ils sont relativement à l'abri, à la fois par cette dynamique régionale et par leurs meilleurs fondamentaux économiques, des perturbations que l'on voit affecter beaucoup plus des pays comme le Brésil ou comme la Russie, dont l'émergence est moins solide dans la mesure où elle est moins appuyée sur une industrie ou une capacité à développer des services informatiques comme en Inde. Je pense que l'Asie va garder une espèce de dynamique qui fait que les émergents d'Asie vont rester parmi les moteurs de l'économie mondiale.
Christian Jaffrelot ?
Oui, il y a une fragilité au plan politique que je peux craindre, enfin déceler, c'est celle qui va concerner les démocraties. On voit dans la rue des gens qui protestent. Certains d'entre eux vont être appelés aux urnes très bientôt. Comment va se traduire cette frustration ? Car cela reflète une frustration. Alors double, d'une part, les élites ont trahi. D'autre part, on espérait un taux de croissance à 6%, il est à 4%. Les expectations, comme on dit en anglais, les attentes ne sont pas réalisées. Le risque, c'est quand même une radicalisation, un vote de rejet, un vote vers les extrêmes, dans des démocraties jeunes. Et donc là, il va falloir suivre de très près comment, au plan électoral, se traduit un sentiment montant qui dépasse la classe moyenne, d'ailleurs.
Ça suppose quoi ? Qu'on intègre encore davantage ces pays-là dans les instances de décision internationale, justement, pour éviter qu'il...
Alors là, c'est un autre dossier, c'est que les instances en question, qu'il s'agisse de l'OMC, de tout le réseau, enfin, tout le dispositif onusien, sont justement des lieux où les émergents ont tendance à faire bloc contre l'Occident et les valeurs qu'il représente, y compris la démocratie parfois. Et là, je dirais, alors pour le coup, ils continuent à être très fringants. Hein. Ils n'ont pas perdu de leur morgue. On va le voir très bientôt sur la négociation climatique. Alors d'ailleurs, le fait qu'ils décrochent ne va pas nous aider à les amener à polluer moins, parce qu'ils vont dire qu'ils ont encore, ils ont encore besoin de tout ce charbon, de toute cette énergie pas chère, parce qu'ils sont pauvres. Hein, et non pas, quand ils sont dans une négociation internationale, ces pays émergents deviennent des pays pauvres.
Il y a un phénomène de solidarité politique entre les pays émergents, Laurence Dadiano. Est-ce que c'est un phénomène, s'il y a solidarité politique, est-ce que c'est une solidarité qui est active ou bien qui est, se fait parce que, par défaut d'une certaine manière, en tout cas par opposition aux pays développés?
Je dirais que cette solidarité est protéiforme parce qu'elle se fait effectivement en opposition à l'Occident, au monde occidental, parce qu'ils émergent aussi par rapport à nous. Mais quand on voit, par exemple...
Donc c'est dans la dynamique traditionnelle sud contre le nord ou nord contre le sud.
Alors, il y a ça. Mais ensuite, quand ils sont entre eux et quand on voit les sommets des BRICS, ça fait déjà un an, voire un an et demi, qu'ils nous disent « on va créer notre banque à nous pour nous aider quand on a des problèmes et pour ne plus dépendre du FMI ». On attend toujours. On a déjà eu deux déclarations d'intention. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les... Quand ils... Il s'agit de passer à des choses très concrètes. Combien on met en mise de fonds? Qui met combien? Qui met quoi? Entre la Chine, qui a des réserves colossales et qui peut mettre de l'argent, l'Afrique du Sud, qui est déjà un peu plus chiche, et la Russie, qui ne sait pas trop si elle va y aller ou pas. C'est vrai que là, la solidarité trouve ses limites, finalement, assez rapidement. Sur, par exemple, l'OMC, je pense aussi qu'il faut un peu remettre en perspective. Quand on voit les progrès ou le chemin qu'a parcouru la Chine depuis 2001... au sein de l'OMC, quand même un parcours depuis qu'elle a accédé qui est assez remarquable. Et on voit autant que, on le dit là, l'économie est de plus en plus mondialisée et les centres de décision restent nationaux. Donc il va falloir aussi adapter les centres de décision à la nouvelle maille économique qui aujourd'hui est plus mondiale et pas seulement pour les pays émergents, mais ça remet aussi en cause nous, notre mode à nous de fonctionnement.
Françoise Lemoine, vous partagez cette analyse sur les difficultés à mettre en place une solidarité entre les pays émergents. Peut-être d'ailleurs, y a-t-il davantage de rivalité entre ces pays que de solidarité ?
Oui, on le voit bien. Bon, ils sont réunis par, comme le disait Christophe, par leur volonté de remettre en cause la domination des économies dominantes, des États-Unis, de l'Europe. Mais quand il s'agit d'avoir des propositions positives qui aillent au-delà de cette volonté de remise en question de la toute prédominance des puissances en place, et ben c'est beaucoup plus difficile. Alors, ils peuvent faire des alliances de circonstances sur tel ou tel sujet, dans telle ou telle négociation commerciale à l'OMC ou ailleurs, mais de là à avoir une stratégie commune, c'est sûr que ça n'est pas le cas pour le moment. Mais je pense que même s'ils ne forment pas bloc, ils pèsent quand même de plus en plus lourd dans les négociations internationales. Ils peuvent bloquer. Ils peuvent bloquer un certain nombre.
Ils jouent en contre.
Oui, parce qu'ils résistent à un certain nombre de libéralisations, notamment dans le domaine agricole, de libéralisation des échanges comme l'Inde. Et ceci peut bloquer des négociations internationales. En fonction de leur intérêt. Ce sont des grandes puissances et qui usent de leur pouvoir pour défendre leurs intérêts, ce qui, après tout, est quelque chose d'assez répandu.
Dans votre livre publié en 2008, enfin, sous votre direction, Christophe Jaffrelot, vous évoquiez la Chine et l'Inde, ces deux empires du milliard qui vivent leur essor non pas comme une première, mais comme un retour aux riches heures du XVIIIe siècle, lorsqu'ils dominaient l'économie, née de la première globalisation commerciale. Est-ce que ça ne signifie pas qu'à un moment donné, les rivalités aussi, c'est-à-dire la volonté de puissance politique qui est peut-être encore émergente justement à l'heure actuelle, mais ne va pas se traduire dans le futur par des rivalités beaucoup plus affirmées. Et est-ce qu'on ne va pas avoir une recomposition non pas entre pays développés et pays émergents, mais certains pays développés avec certains pays émergents, une carte beaucoup plus complexe que celle qu'on décrit peut-être actuellement.
Tout à fait. Et là, on a le cas typique. Inde-Chine, évidemment, pour l'instant, on commerce ensemble, on s'enrichit, c'est la priorité. Mais l'espace asiatique est trop petit pour ces deux puissances qui ne cessent de croître. Alors, on le voit déjà au plan géopolitique. L'océan Indien devient une zone de friction quasiment quotidienne, j'exagère à peine. Pour la Chine, c'est capital, cet océan Indien. C'est par là que passent tous les supertankers qui viennent l'alimenter en hydrocarbures. Pour l'Inde, c'est sa Mare Nostrum. Et donc, on voit la Chine mettre des pions, placer des pions dans toute une série d'îles de Sri Lanka aux Seychelles, en passant par d'autres, et l'Inde cherchait à réagir. Il est certain que du coup, au lieu d'avoir une Chine contre d'autres, on va avoir le Japon, c'était Abe qui était en visite la semaine dernière à Delhi, qui s'associe à l'Inde contre la Chine, les États-Unis qui sont dans cette perspective aussi, les Australiens également. Et du coup, c'est pas l'Inde et la Chine contre d'autres, mais on va faire des alliances qui seront à géométrie variable.
Des alliances qui ne sont pas forcément liées au modèle politique en vigueur dans chaque pays.
Exactement, qui n'ont d'autres raisons que l'intérêt géostratégique. Et du coup, il n'y aura pas de G2 dans le monde de demain. Hein, États-Unis et Chine ne se partageront pas le monde. Peut-être qu'il n'y aura pas de G2 et qu'ils ne co-géreront pas le monde. Mais il ne serait pas étonnant qu'à terme, on soit du côté de la Chine ou du côté des États-Unis et que du coup, ça casse la solidarité des BRICS.
Laurence Asiano.
Oui, moi, je partage pas tout à fait cette opinion parce que je pense justement que l'économie mondiale aujourd'hui, elle va s'organiser autour de deux pôles, que sont les États-Unis, parce que les États-Unis montrent encore leur formidable à la fois capacité de rebond, on le voit avec les gaz et les pétroles de schiste, leur formidable innovation, donc tout ce qui est Twitter, Facebook, ça vient des États-Unis. Donc d'un côté, les États-Unis. De l'autre, vous avez la Chine qui va quand même constituer un pôle, d'abord parce que c'est une économie, c'est une population qui est énorme. Donc on en est dans cette économie monde, le vieux concept de Fernand Braudel. Et entre ces deux pôles, on va avoir, on a déjà l'Europe, et puis on voit les émergents qui commencent à arriver et à monter pour se mettre entre ces deux pôles. Donc voilà, je ne partage pas tout à fait.
Oui, mais là, c'est faire totalement abstraction du politique et notamment de l'expansionnisme chinois qui fait très peur à sa périphérie. Aujourd'hui, tout de même, les Japonais sont les premiers à dire autant d'alliés que l'on peut pour faire face, pour contenir la Chine. Et ils trouvent des alliés, ils trouvent des partenaires. La logique économique est sans doute importante, mais elle ne peut pas effacer les considérations géopolitiques.
Alors, on va bien avec vous trois ce soir, comment, malgré les difficultés actuelles de ces pays émergents, les cartes de l'économie et de la géopolitique mondiale sont redessinées. Avant de poursuivre notre discussion et de l'achever, je voudrais vous faire écouter l'interview de Jean-Michel Huet à propos d'une autre carte qui est modifiée par l'émergence de ces pays, celle de l'aide au développement. Jean-Michel Huet est directeur associé de la société de conseil Bearing Point et il a publié en décembre dernier un rapport intitulé « Faire entrer l'aide au développement dans une nouvelle ère ». Il explique à Mélanie Chalandon comment ces émergents arrivent aussi sur ces questions d'aide au développement des pays moins développés. Donc,
vous avez la Corée du Sud, le Brésil, l'Afrique du Sud qui sont aujourd'hui des contributeurs pour d'autres pays du Sud à l'aide au développement. Alors, sachant qu'il faut peut-être distinguer deux cas de figure, le cas où c'est des pays qui, au titre national, contribuent à l'aide au développement, c'est-à-dire qui ont des institutions, des bailleurs de fonds nationaux, brésiliens, coréens, et puis vous avez aussi des pays qui contribuent via des instances internationales, comme la Banque américaine au développement, la Banque africaine de développement, et là, on va retrouver des pays comme la Colombie, comme le Nigeria, qui aident aussi, via ces institutions, des pays encore moins développés qu'eux.
Est-ce que l'Inde, le Brésil, la Chine, la Corée du Sud ont une manière d'assurer ça, qui leur est propre, qui se démarquerait en fait?
S'il y avait un reproche qu'on pouvait faire à l'aide au développement, c'est que c'est souvent des procédures très longues. Je pense que la sensibilité des donneurs quand ils viennent des pays émergents, c'est aussi de dire qu'il faut peut-être accélérer ces délais, parce que souvent, il y a une forme d'impôt indirect, en quelque sorte, qui est le temps que prend l'aide au développement à venir directement dans l'économie des pays.
Alors Françoise Lemoine, est-ce que les émergents actuels, ces grandes puissances dont on parle depuis le début de l'émission, ont intérêt à investir justement le domaine de l'aide au développement ? Parce qu'elles en auront besoin aussi dans les années à venir. On sait bien que l'aide à développement, ça n'est pas quelque chose de purement désintéressé, qu'il y a aussi des intérêts. Et est-ce qu'elles ont intérêt justement à aller dans ce domaine-là ?
Bah écoutez, là, on a l'exemple de la Chine là, qui fait énormément. On ne sait pas si c'est vraiment de l'aide au développement ou au contraire des investissements dans des secteurs de production et notamment énergétique.
Vous parlez de l'Afrique ?
En Afrique. La politique chinoise consiste à mélanger dans un mix où il est absolument impossible de distinguer ce qui est crédit à des taux bonifiés, subventions et investissements. Et remboursement de tous ces investissements en pétrole ou en matières premières. Donc je crois qu'il y a en Afrique, effectivement, les intérêts de ces émergents vraiment se rencontrent et rentrent en compétition en Afrique, puisqu'on sait que le Brésil est aussi très présent sur les marchés africains et l'Inde aussi. Donc il y a une concurrence des pays émergents pour les matières premières africaines, pour les marchés émergents en Afrique. Et dans ce domaine-là, des pays comme la Chine ont énormément de financement à mettre à la disposition des pays africains sans conditionnalité politique. Pour ces pays africains, c'est une aide qui est souvent très bienvenue, qui est politiquement très, très liée en même temps.
Les émergents d'aujourd'hui, Christophe Jaffrelot, ont intérêt à regarder du côté des émergents de demain, peut-être d'ailleurs pour s'en protéger aussi un peu.
Oui, et puis pour les placer dans leur dépendance. Hein, la Chine prête plus qu'elle ne donne. Et comme le dit Claude Meyer, c'est la banquière du monde aujourd'hui. Et on s'endette à 7-8%. Sri Lanka est en train d'être vendu par appartement aux Chinois parce qu'à terme, ils ne pourront pas rembourser. Donc c'est une aide, si on veut. C'est plutôt une mise en tutelle, sous tutelle en un sens. Mais ça peut prendre des formes très différentes. Les Indiens, eux, travaillent beaucoup à travers le secteur privé, beaucoup plus qu'à travers le secteur public. Et ça, c'est un point que nous n'avons pas abordé du tout, mais qui est très important. Il y a maintenant de grandes multinationales issues des pays émergents. Et si les pays boivent la tasse, les entreprises, elles, se portent très bien. Aujourd'hui, Tata est le premier employeur en Grande-Bretagne pour ce qui est de l'industrie, 50 000 salariés. Et Lenovo et quantité d'autres grandes firmes chinoises sont maintenant partout présentes. Donc, il faut aussi distinguer, le secteur privé toujours florissant à sa manière, de pays d'où ils viennent et qui sont, eux, en moins bon point.
Ah, ce qui se passe aujourd'hui pour les grands émergents dessine peut-être l'avenir de cette nouvelle vague d'émergents qui fait l'objet de votre note, Laurence Daziano. Alors, je rappelle, Bangladesh, Éthiopie, Nigeria, Indonésie, Vietnam, Mexique, ce sont les pays sur lesquels il faut miser aujourd'hui. Il y a on va dire des demi-surprises, mais c'est vrai, quand on voit l'Éthiopie, on est resté sur l'imagerie des années 80, pays extrêmement pauvre, ça n'est plus du tout ça aujourd'hui.
Alors si l'Éthiopie reste un pays pauvre, si on regarde le PIB par habitant, ou si on regarde encore, si on voit qu'un tiers de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté.
Mais vous dites par exemple qu'il y a quasiment 100% de taux de scolarisation dans ce pays.
Alors ce qu'il faut voir sur l'Éthiopie, d'ailleurs il faut quitter cette image de famine des années 80. L'Éthiopie aujourd'hui c'est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique après le Nigeria. Donc c'est une population qui est jeune, c'est une population qui est éduquée. C'est une population qui, donc, il y a une classe entrepreneuriale qui est en train de se développer. L'Éthiopie, on vient de le dire, la Chine investit beaucoup en Éthiopie parce que l'Éthiopie est un pays vert, donc avec des terres, ce dont manque la Chine aujourd'hui. Donc ils investissent, ils achètent beaucoup de terres en Éthiopie.
La France investit suffisamment dans un pays comme l'Éthiopie ou dans ces nouveaux émergents ?
Non, la France est totalement absente. Si on pense notamment, on parlait du Brésil qui investit en Afrique. Le Brésil investit notamment beaucoup au Mozambique. Le Mozambique, on a découvert des gisements gaziers énormes et où la France a fermé fermé sa mission économique. D'ailleurs, qu'elle est en train d'essayer de rouvrir, parce qu'on s'est aperçu qu'on avait fait une erreur monumentale. Donc, la France, la diplomatie économique est en train de se mettre un petit peu en marche, et Nicole Brick va beaucoup à l'étranger, et dans ces pays-là, d'ailleurs, dans les
quand nouveaux pays. Quand on s'appelle Nicole Brick, normalement, on devrait être un petit peu alerté sur l'intérêt des pays émergents.
Mais la France est encore trop peu présente dans ces pays.
Voilà, je rappelle que c'est la ministre du Commerce extérieur. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Françoise Lemoine, Laurence Daziano et Christophe Jaffrelot. Les différentes références bibliographiques sont sur notre site franceculture.fr, la page du Grain à Moudre, page sur laquelle vous pouvez également poster vos commentaires. Émission à réécouter pendant 1000 jours, à télécharger pendant un an. Demain, nous avons rendez-vous avec notre premier club des observateurs des élections européennes. Nous nous demanderons si les européennes vont signer le triomphe des anti-systèmes, qui sera aussi l'occasion d'essayer de définir ce qu'est ce fameux système dont on entend beaucoup parler en ce moment. Voilà, tout de suite, c'est le rendez-vous avec Laurent Goumard. Bonsoir Laurent.